première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
Emmanuel Regenblum et les archives clandestines du ghetto de Varsovie.
Si quelqu'un peut prendre un bout de papier pour écrire, ça veut dire que tout n'est pas fini, qu'il existe en nous une possibilité de vie. Ça signifie qu'on survivra.
Qui écrira notre histoire au moment où, à l'automne 1940, les portes du ghetto de Varsovie se refermaient sur quelques 400 000 individus? Emmanuel Regenblum et une bande de camarades mettaient en place des organisations qui devaient prolonger, dans des circonstances inouïes, la vieille tradition de l'attention et de la compassion juive. Des soupes populaires, des comités d'immeubles et Onek Shabbat, Shabbat en yiddish, une société sacrée qui allait se charger de collecter, de documenter, d'archiver la vie du ghetto. Regenblum y lisait les récits par Maxence von der Merch de l'occupation allemande dans le nord de la France après 1914. Il y observait qu'il s'était déjà livré là une guerre totale contre les civils, mais que cette fois-ci c'était bien pis. Il s'agissait maintenant d'écrire ce qui pourrait être lu demain. Le travail des juges en serait rendu possible et la mémoire des survivants serait moins difficile. Les archives d'Onek Shabbat ne sont pas les seules constituées dans les ghettos, mais elles sont exceptionnelles par leur caractère volontariste. Regenblum ne se contentait pas d'enregistrer le quotidien. Il produisait des études sur des thèmes précis, lançait de vastes enquêtes sur la rue, la chanson populaire, les femmes du ghetto, etc. Et professeur d'histoire à l'origine, il plaçait au-dessus de tout l'exactitude. Les documents d'Onek Shabbat ont été, pour une grande part d'entre eux, retrouvés en 1946 et en 1950. Ils étaient enfouis dans des caves, sous des étages de décombres. Leur publication a été essentielle. Leur traduction en français avance lentement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Judith Lidenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes familière, vous aussi, des travaux en équipe, des travaux collectifs?
Oui, c'est vrai.
Vous animez un séminaire, vous avez appartenu à des équipes de recherche. Et le livre que vous avez publié aux éditions du CNRS, Premier savoir sur la Shoah, c'est un livre collectif.
Tout à fait.
Avec la participation de quelqu'un qui est très important dans la restitution de l'histoire de l'aventure de Regenblum, c'est Kassov.
Oui, Kassov qui a donc écrit cet ouvrage intitulé en français « Qui écrira notre histoire ? Les archives clandestines du ghetto de Varsovie » et qui retrace avec un grand brio l'aventure incroyable que furent la constitution de ces archives et qui fait en même temps une biographie intellectuelle d'Emmanuel Regenblum. Parce qu'en effet, on ne peut comprendre cette entreprise sans la replacer dans le contexte culturel de la société judéo-polonaise de l'entre-deux-guerres, dont Emmanuel Regenblum a été une figure importante.
Il est né en Galicie en 1900, il a fait des études d'histoire parce que le numerus clausus que la République polonaise imposait aux étudiants juifs était moins lourd en ce qui concerne l'histoire que la médecine à laquelle il se destinait. Il appartenait à un petit parti de gauche dont l'histoire est assez tourmentée de juifs polonais. Il insistait sur le rôle, la nécessité des Juifs en Pologne.
Oui, alors pour comprendre cette insistance, il faut replacer l'itinéraire intellectuel d'Emmanuel Regenblum et d'autres historiens juifs polonais importants de sa génération dans un contexte plus large. Motivé par cette idée que l'histoire n'est pas seulement un savoir pour intellectuels, mais et une discipline qui va aider les Juifs polonais à prendre conscience de leur propre identité. Et pour ça, il y a une personnalité très importante que je voudrais citer, qui est celle de Simon Dubnov, historien juif russe, qui, à la croisée du 19e et du 20e siècle, a appelé les Juifs polonais à collecter des sources matérielles, orales et écrites pour écrire leur propre histoire. Et à partir de là, va émerger cette figure du collecteur, du zammler en yiddish. Et les archives d'Onek Chabas, en fait, ne peuvent être comprises sans être replacées dans ce contexte.
Mais l'histoire juive a une mission dans l'histoire de la Pologne. Il y a d'ailleurs une chaire d'histoire juive à l'université de Varsovie en 1939, avant l'occupation allemande. Il y a des dizaines de travaux qui sont déjà en cours ou publiés.
Bien sûr, cette nouvelle génération d'historiens dont Emmanuel Riegelblum et ses comparses constituent d'une certaine manière la deuxième génération, cette chaire d'histoire à laquelle vous faites allusion, c'est celle de Meir Balaban qui va être le mentor d'Emmanuel Riegelblum avant la guerre. Ces historiens croient profondément en une histoire juive profane, détachée de la religion et fondée sur des sources...
Et fondée sur le peuple, sur la recherche de ce qu'est le peuple, de ce qu'est la masse juive, pour reprendre son mot.
Voilà, pour écrire cette histoire, fondée sur les productions du peuple même, c'est-à-dire ce qu'écrit le peuple, ce que raconte le peuple, les objets, etc. C'est tout cela qui va constituer les sources de cette nouvelle histoire juive.
Riegelblum a choisi de rester à Varsovie. L'occupation allemande, c'est 1939, après le siège perdu auquel les Juifs contribuent beaucoup, défenseurs héroïques souvent de la ville. À l'automne 1940, l'occupant allemand constitue un ghetto dont il ferme peu à peu les portes. Il y a des administrations allemandes, mais il y a aussi une administration juive choisie par les Allemands.
Oui, c'est le Conseil juif, le Judenrat, dirigé par Tcherniakov. Alors, Riegelblum va toujours être très critique à l'encontre de cette administration et son archive et aussi bien son travail dans les organisations d'entraide et notamment dans l'Allied Hilf et dans le Joint Distribution Committee américain, va se faire séparément du travail du Judenrat.
Alors, en ce début d'année, d'une part, publication chez Kalman Levy du journal personnel de Riegelblum, et puis au théâtre de l'Épée de Bois à Paris, un spectacle produit par la compagnie Retour d'Ulysse. Le spectacle fait une grande place à Slengel. Slengel, il écrit en polonais, alors que Riegelblum écrit essentiellement en yiddish. Il appartient au moins pendant un temps à la police juive. Riegelblum s'intéresse beaucoup à lui, mais Slengel ne fait pas partie de l'organisation d'archivage. Il se produit dans des cafés, dans des soirées qui vont devenir de plus en plus commémoratives.
J'ai une fenêtre sur l'autre côté. Une insolente fenêtre juive sur le joli parc Klajinski où les feuilles d'automne prennent la pluie. Quand tombe un soir de lys argenté, les branches font une révérence et les arbres ariens lorgnent dans ma fenêtre juive. Il m'est interdit de rester à la fenêtre, une règle de justesse, car la vermine juive, les taupes, devraient être aveugles. Dans leur pucier, dans leur taudis, qu'elles restent l'œil collé à leur besogne, loin des fenêtres juives et de l'idée de regarder. Mais moi, quand la nuit tombe pour tout effacer, égaliser, j'accours dans le noir à la fenêtre et je regarde, vorace, je regarde. Je dérobe Varsovie éteinte, bruits et sifflements lointains, silhouettes de maisons et de rues, moignons de tours estropiées. Et je chuchote, Varsovie, parle-moi, j'attends. Aussitôt, les pianos de la ville lèvent leur couvercle muet, se lèvent tout seuls selon les ordres, lourds, tristes, fatigués. Et dans la nuit, une polonaise de Chopin s'écoule sans piano. Les cordes des claviers m'appellent dans le silence, lourd de supplice. Sur la ville, les accords s'écoulent des claviers blancs, comme des cadavres. C'est fini. Je baisse les bras. La polonaise retourne dans les caisses. Je rentre.
Il ne fait pas bon avoir une fenêtre sur l'autre côté.
Eric Évreux et au piano Stefano Fogger, c'est dans le spectacle actuellement joué au théâtre de l'Épée de Bois à Paris. La fenêtre de l'autre côté, du côté arien. Le groupe Donek Shabbat et Ringenblum en particulier sont très occupés des rapports entre les Juifs et les Polonais et des liens qui peuvent s'établir.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le dernier essai écrit par Ringelblum portera justement sur les relations judéo-polonaises. C'est un terme qui l'a toujours beaucoup préoccupé, même avant la guerre, puisque venant d'une famille assimilée, comme beaucoup d'intellectuels juifs, il avait reçu une éducation juive dans un Heder, mais aussi une éducation polonaise. Il était très proche de la culture polonaise. Et ce que mentionne Kassov, c'est qu'il a toujours gardé à cet égard, comme à d'autres, une grande objectivité. Il n'a pas voulu condamner les Polonais, mais essayer vraiment de montrer dans les détails quelles ont été les relations entre Juifs et Polonais. Mais je voudrais revenir brièvement, si vous le permettez, sur Schlengel, qui me paraît un personnage très intéressant. Et cette poésie a eu un grand rôle dans le ghetto. Et c'est à ce titre qu'elle intéresse Ringelblum et qu'elle fait partie des archives, parce que ce n'est pas seulement un témoignage sur ce que vivent les Juifs polonais dans le ghetto, mais l'écriture de ces poèmes, comme plus largement toutes les archives, mais ces poèmes en particulier, font partie d'une action de résistance.
Les organisations d'entraide, ce sont par exemple les soupes populaires, dirigées notamment par Madame Auerbach, qu'on retrouvera parmi les survivantes du groupe. C'étaient les comités d'immeubles qui étaient chargés d'organiser l'entraide entre les habitants. Peu à peu, quand la situation se détériore, que la corruption gagne, ces organisations de fraternité se voient de plus en plus contrebattues et le rôle des archives, du coup, devient de plus en plus déterminant dans la pensée de Ringelblum, par opposition.
Oui, jusque à la fin de l'année 1941, les Juifs polonais vivent dans le ghetto, donc depuis un an, dans des conditions extrêmement dures. Mais on croit encore au fait qu'il y aura un après et que ces archives pourront servir aux Juifs dans l'après-guerre pour mieux comprendre leur histoire. À partir du début de l'année 1942 et des premières rafles, Ringelblum et toute la bande des archives prend conscience que le peuple juif est en train d'être détruit, aussi parce qu'ils reçoivent beaucoup de nouvelles de l'extérieur. Alors que jusqu'à ce moment-là, le travail d'entraide et le travail d'archives étaient en quelque sorte pensés en complémentarité dans une action de résistance pour les Juifs. À ce moment-là, il y a un basculement qui se produit et, comme le dit Kassov, les membres d'Onek Chabez commencent à se dire qu'ils sont peut-être en train d'écrire le dernier chapitre de 8 siècles d'histoire des Juifs polonais. Et si on peut penser qu'à partir de ce moment-là, la constitution d'archives peut sembler dérisoire en concurrence avec ce qui est en train d'arriver aux Juifs, elle prend en fait un sens nouveau qui est celui de penser que si les Juifs ne survivent pas, au moins il faut laisser des traces de ce qu'ils ont vécu et faire entendre la voix des victimes dans cette histoire de destruction.
C'est à ce moment d'hésitation, de bascule que vous décrivez, Judith Lindenberg, qu'intervient ce texte qu'on retrouve dans l'édition de Kalman Levy du journal de Ringelblum et qui est lu ici pour nous par Armel Veillant.
26 juin 1942. Le vendredi 26 juin a été pour notre équipe dans Inek Chabès un jour d'événements capitaux. Ce matin, la radio anglaise a diffusé une émission spéciale consacrée aux Juifs de Pologne. On a divulgué tout ce qui nous est désormais familier. Pendant de longs mois, nous avions souffert de ce que le monde demeurait sourd et muet à notre tragédie qui n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire. Nous adressions des reproches aux hommes publics polonais, aux hommes de liaison qui assuraient le contact avec le gouvernement polonais en exil. Pourquoi ne faisait-il pas connaître le massacre des Juifs de Pologne? Pourquoi le monde entier n'était-il pas au courant? Nous accusions les intermédiaires polonais d'étouffer délibérément notre tragédie afin qu'elle n'éclipse pas la leur. Il semble que toutes nos interventions aient enfin atteint leur but. Au cours des dernières semaines, la radio anglaise a diffusé continuellement des informations concernant les cruautés commises envers les Juifs polonais. Chelmno, Vilna, Belzec et ainsi de suite. L'émission d'aujourd'hui a dressé le bilan de la situation des Juifs de Pologne et a avancé le chiffre de 700 000 Juifs assassinés en Pologne. En même temps, la radio a promis la vengeance, un châtiment implacable pour tous les crimes commis. Notre équipe d'Oinek Chabès s'est acquittée ainsi d'une mission historique majeure. Elle a alerté le monde sur notre sort et a peut-être sauvé des centaines de milliers de Juifs polonais de l'extermination. S'agissant de ce dernier point, naturellement, seul l'avenir proche nous montrera s'il s'avère exact.
Constituer une documentation pour permettre le jugement. Demain, transmettre l'information au gouvernement polonais en exil à Londres, aux alliés. Ça, c'est aussi une mission historique. Elle est définie comme telle par Ringelblum à cette date du 26 juin 1942.
Oui, bien sûr, et c'est un passage extrêmement important de son journal. C'est d'ailleurs l'un des seuls où il mentionne l'existence d'Oinek Chabès dans le journal. Puisque dans ce journal, il fait mention de toutes les nouvelles qu'il apprend, de la prise de conscience progressive de ce qui est en train d'arriver. Mais il ne parle pratiquement jamais, à cette exception près, de son collectif pour ces questions de secrets dont j'ai déjà parlé.
Juin 42, Ringelblum écrit dans son journal « On verra dans les jours prochains ce qu'il adviendra de nous ». Eh bien, ce qu'il advient de nous, c'est la déportation massive à Treblinka. Le 22 juillet, les SS informent le leader du Judenrat, Chernakov, qu'ils vont rafler 6000 personnes par jour. Qu'est-ce que fait d'ailleurs le président du Judenrat à ce moment-là?
Il se suicide, ce qui est perçu par beaucoup, dont Ringelblum, comme un signe de lâcheté vis-à-vis de sa communauté.
Stanislas Tomkiewicz était alors un jeune habitant du ghetto.
Les Allemands ont commencé par demander 6000 personnes par jour, ou après c'était 10 000, soi-disant pour les exporter dans les camps de travail dans l'Est. Alors au début, les premiers jours, c'était des volontaires. Ils recevaient chacun 3 kilos de pain, 1 kilo de sucre et 1 kilo de confiture. Et la famine était si féroce qu'il y avait quand même quelques dizaines de milliers de la plus grande misère, de la plus grande pauvreté, qui y allait volontaire, tout en sachant plus ou moins. Et comme vous savez, tous ces gens-là allaient dans le train à Treblinka, qui était situé à 200 kilomètres de Varsovie. Ils passaient à la chambre à gaz immédiatement. Et nous, on les savait, et ça se répétait. Il y a des gens qui, jusqu'au dernier moment, ne voulaient pas croire. Et puis, il y a des gens comme moi qui y ont cru dès le début. Et ça a forcément permis d'avoir une autre attitude envers les événements des suites.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Judith Lindenberg, nous parlons de Ringelblum, du groupe qu'il avait constitué, qui avait pour but de collecter, d'inventer aussi, à certains égards, au sens premier du mot, les archives de la vie du ghetto. Les appartements sont vides, comme l'explique, c'est encore une lecture de Schlengel, le poète en polonais du ghetto, après le départ de 265 000 personnes en quelques semaines du ghetto.
Je vais à travers le long couloir vide. Une bouilloire siffle, un cartable abandonné, des draps dispersés, un verre à moitié bu. Il n'y a personne. Je fuis l'appartement.
Schlengel a quitté la police juive qui a participé au travail de rassemblement des habitants du ghetto destiné à Treblinka. Et la question pour Ringelblum, à ce moment-là, dans les quelques mois de sursis que vont laisser les nazis, occupés à digérer bureaucratiquement la déportation, c'est « je reste, c'est ma mission historique, je ne reste pas ».
Effectivement, il est face à un dilemme qui fait que s'il reste, il est plus à même d'aider ceux qui restent. D'ailleurs, il y a des mentions de sa présence à l'Umschlagplatz, l'endroit où les Juifs étaient déportés pour Treblinka, où, fort de ses relations, il essayait d'agir pour sauver certaines de ses connaissances. D'ailleurs, il revient souvent dans son journal sur... Pour lui, cette question aussi qui est un dilemme, c'est-à-dire qui sauver en priorité, et il dit les enfants et l'intelligentsia juive pour le travail qu'elle effectue envers le peuple. Mais il y a aussi son devoir familial qui fait qu'il veut sauver les siens, son fils et sa femme qui l'enjoignent de le rejoindre. Et finalement, il va se résoudre à quitter le ghetto, mais à partir
de... La femme et le fils sont du côté arien maintenant.
Du côté arien, mais à partir de ce moment-là, il effectuera de fréquents allers-retours entre sa cage dans un bunker et le ghetto pour continuer à y remplir ses missions.
La résistance juive s'est organisée pendant les mois de sursis laissés par les nazis, organisation en deux groupes distincts d'ailleurs. Et en avril 43, quand recommencent massivement les rafles nazies, la nuit de Pessah, une des organisations juives lance l'alerte, témoignage plus tard recueilli de Masha Poutermitsch.
Nous avons vu les Allemands entrer dans le ghetto, joyeux et allègres, et incroyablement sûrs d'eux-mêmes. Nous les avons laissés s'approcher, de plus en plus près. Et quand la première grenade a été lancée par le groupe en face du nôtre, à côté de ce groupe, il y en avait encore un. Nous étions trois groupes dans cette partie du ghetto. Alors ça a commencé. C'est très difficile de se souvenir de tout ça parce que c'était un chaos épouvantable. Il y avait nos grenades et les bombes incendiaires et tous nos coups de feu. Je me rappelle que j'ai tiré ce jour-là pour la première fois de ma vie. Je ne me rappelle pas combien de temps nous avons attendu à notre place. Mais notre position était plus avantageuse que la leur. Combien de temps ça a duré, je ne peux pas m'en souvenir. Pour nous, c'était une éternité. Puis les Allemands se sont retirés en tenant leurs fusils comme ça. Ça, je l'ai vu. Ils avaient les fusils relevés sur eux. Et en arrivant près du mur, en se retirant, ils rampaient. Mais nous avions vu le sang allemand.
La force de ce témoignage est une des justifications du titre du documentaire de France 2 dont il est extrait, Les derniers héros. Du côté de Ringelblum, il n'y a jamais d'héroïsation.
Non, il reste avant tout un historien soucieux d'objectivité. Et cet épisode de l'insurrection du ghetto de Varsovie va devenir par la suite l'exemple même de l'héroïsme des Juifs qu'on a souvent désigné comme étant resté passif pendant l'occupation allemande. Ringelblum, lui, il se trouve dans le ghetto à ce moment-là, mais ne joue pas de rôle dans cette insurrection, même s'il a aidé au financement de l'armée juive qui s'est constituée. Lui garde toujours ce souci de faire la part des choses et de ne pas tomber dans une glorification ou dans un mythe ou dans la condamnation de l'une ou l'autre des parties.
Ringelblum survivra jusqu'en mars 1944 dans une cache dénoncé par la maîtresse du jardinier polonais qui l'abritait. La maîtresse en voulait au monsieur. Il a été questionné, enfin je veux dire torturé, pendant trois jours. Il a refusé la proposition que lui faisait un de ses camarades de s'échapper seul, parce qu'il ne s'agissait pas d'abandonner son fils Uri et sa femme, et il a été exécuté donc avant même le printemps 1944. Il faut dire maintenant que dès avant la déportation de Treblinka et au moment de l'insurrection, à deux reprises au moins, les documents d'Oleg Chavez ont été dissimulés dans des bidons de lait, dans des boîtes d'acier.
Ces documents ont été dissimulés en plusieurs parties et cela va avec ce tournant dont j'ai parlé à l'année 42. Au milieu de l'année 42, les membres d'Oleg Chavez se réunissent et décident qu'il faut sauver ses archives. Et ils décident donc d'enterrer une première partie de ses archives à l'été 42, puis deux parties suivantes seront dissimulées en 43.
Après la destruction du ghetto, alors qu'il ne reste que des décombres, Madame Wehbach, qui dirigeait les soupes populaires et qui a déjà été citée, a milité très activement toute l'année 1945 pour qu'on consacre des efforts et de l'argent à retrouver sous les tonnes de décombres, sous une montagne de pierres, dans une cave très difficile à identifier, le premier lot de boîtes dissimulées au début de 1942. Le témoignage de Michel Borowicz, qui a publié un livre fondateur sur l'insurrection du ghetto de Varsovie jadis.
On a creusé une sorte de cheminée à travers les ruines pour parvenir à cette cave. Je me rappelle même, il y avait des sceptiques qui disaient, alors on dépense tant, probablement c'est de la propagande juive, il n'y a aucune archive, ce n'est pas possible. Il y avait des moments assez durs psychiquement, parce qu'on était entouré de sceptiques, alors ça coûtait beaucoup, bien entendu, beaucoup d'efforts, beaucoup. Mais enfin, on a parvenu à déterrer. Mais c'était seulement une partie. C'était, si je me rappelle bien, 10 caisses, c'est-à-dire 8 caisses dans une pièce, après dans la pièce avoisinante.
Des caisses en fer.
Oui, en fer. Mais pour récupérer les documents, c'était encore une autre affaire. C'est-à-dire, l'eau s'est infiltrée à l'intérieur des boîtes, alors ces documents sont collés. Alors on a coupé les parois, les boîtes. On a commencé à sécher feuille par feuille, ça dirait des semaines.
C'est la première découverte de 1946, il y en aura une autre en 1950, et une partie a sans doute été perdue.
Oui, une partie a sûrement été perdue. Il y a une des trois parties enfouie qui n'a jamais été retrouvée, malgré les indications qu'on avait sur le lieu où elles étaient enfouies.
Ça a servi, ces archives clandestines, au jugement d'après-guerre. C'était pourtant une des intentions de Ringenblum.
Oui, pas directement. Ces archives ont été déposées à l'Institut historique juif, qui a pris la suite de la Commission centrale historique juive, qui a été fondée par plusieurs historiens survivants, dont Rachel Auerbach, que vous avez cité. Et cette commission a énormément œuvré pour rassembler une documentation en vue des procès. Mais ces archives elles-mêmes n'ont pas servi à cela. Elles constituent la majeure partie du fonds d'archives de l'Institut historique juif, mais leur exploitation a mis énormément de temps à se faire pour les raisons invoquées par Michel Borowicz, entre autres. Et parce qu'il s'agit d'un énorme fonds extrêmement composite, ce qui fait sa richesse, mais aussi sa difficulté d'exploitation.
La traduction en français avance lentement, donc un volume chez Kalman Levy, le journal personnel de Ringelblum, et précédemment deux volumes dont on attend la suite chez Fayard. Et puis il faut que les études qu'avait lancées, signées, Ringenblum trouve enfin leur place dans la littérature historique en français. Puis je rappelle aussi le spectacle de l'épée de bois qui est consacré par la compagnie Retour d'Ulysse à Paris au même témoignage. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco avec la réalisation Audrey Ripouille et la technique, c'était Éric Morin.